France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, c'est le départ du Tour de France, grande fête du cyclisme, mais aussi fête populaire qui s'est longtemps déroulée au son de l'accordéon. Alors, pour cette dernière émission de la saison, je vous propose un spécial sport et accordéon avec mes deux invités, le fantaisiste Danny Morris et le grand accordéoniste Armand Lassagne. On les retrouve dans une quinzaine de minutes, en fin d'émission, la chronique de Serge et Laïc. Mais pour ceux qui, comme moi, vont prendre leur quartier d'été, voici d'abord le programme des vacances chanté par Madame Bolduc.
Le temps des vacances est enfin arrivé. On voit les enfants sont pleins de gaieté. Sur le bord de l'eau, sont en train de s'amuser. N'allez pas trop loin, vous pouvez vous noyer.
On dit que par là, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Dimanche passé, je suis allé me baigner à la rivière des prairies, il y a beaucoup de dangers. Et dans le fond de l'eau, il y a de la bite de cassé. J'ai la feuille coupée et puis l'eau de rinchée.
Vous le dites, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année.
Personne au volume n'est pour me secourir. Il y avait des gros chiens qui partent toujours dans l'eau. Je les poignais par la papille, j'en partais sur le dos.
Faut dire que par un, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année.
La peur m'a pris, puis je me suis sauvée. Le chien enragé a couru à pour moi. Il m'a poignée par la couette, puis il m'a tout arraché.
Faut dire, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Rendu à la maison, mon mari m'attendait. Il voulait aller à la pêche au brochet. Mais tout l'éveillé y a poigné des menées. Moi, ça vient mordu, j'ai poigné de la morue.
Faut dire, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Et c'est là quand on est arrivé. Ils ont pris les menées, puis je vous dis qu'ils sont sauvés. Ils ont pas de la fontaine, ils ont aidé les portées. Si vous voulez les voir, ils sont après nager.
Bonne dit, chers parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Pour tout oublier les fatigues de l'année.
Moment que je m'adresse maintenant. Faites attention, veillez sur vos enfants, espérant qu'à l'automne qu'ils vont être reposés, car au mois de septembre, les classes vont recommencer.
Voici les parents, qu'on est tous contents. Voilà les vacances qui sont arrivées. On va rire et chanter, on va bien s'amuser. Faut tout oublier les fatigues de l'année.
Et oui, vous savez, j'aime bien traditionnellement terminer la saison avec cette chanson de la Bolduc. Madame Bolduc qui dresse d'ailleurs la liste de toutes les catastrophes qui peuvent arriver pendant l'été, les maringouins, etc., etc. Ça, c'était un enregistrement du 2 juillet 1932.
Thank you.
Une petite merveille, ça s'appelle Bella, une polka mazurka de monsieur Émile Waldteufel, et c'était une interprétation que j'adore, celle de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg sous la direction de Theodor Guschelbauer. Je vous l'avais d'ailleurs fait entendre cet hiver, ce disque de Waldteufel. Mais vous savez, comme c'est la dernière émission, j'aime bien ressortir deux ou trois petites choses que j'ai particulièrement aimées, que vous avez aussi parfois particulièrement aimées. Vous me l'avez signalé au fil des semaines. Alors tiens, voilà, justement, avant de retrouver mes invités, un petit bout d'opérette, une opérette que j'ai un peu redécouvert à l'occasion de tout ce cycle Maurice Yvain. Ça s'appelle « Oh papa ». Et il y a ce duo merveilleux dans lequel la jeune fille fait semblant de retrouver son père. En fait, c'est un aventurier. Mais voilà, il y a un petit duo que je trouve particulièrement réussi dans cette opérette de Maurice Yvain.
J'ai retrouvé tout à coup.
Elle a retrouvé tout à coup.
Ça m'en fait trembler les genoux. C'est le monde est fou. Celui que j'avais perdu.
Bien sûr, elle l'avait perdu.
Un hasard inattendu. Soudain l'a rendu. Ma bouche sourit en prononçant ce nom chéri.
Ma bouche sourit en prononçant ce nom chéri.
Et oui, on a tous nos tubes de l'année. Bah moi, c'est ça, vous voyez, Maurice Yvain, 1933. C'était Jacqueline Francel en duo avec Boucaud dans l'opérette Oh Papa. Et puis tout de suite, un deuxième duo d'opérette. Alors là, on change d'époque. C'est Visa pour l'amour de Francis Lopez. C'est Luis Mariano et Annie Cordy. Annie Cordy qui va être tout à l'heure avec nous au téléphone pour évoquer le Tour de France.
Flaquet, flambotté jusqu'aux genoux. Nous nous promenons dans les égouts. Nous sommes au frais pendant les mois d'été. Et l'hiver nous sommes abrités. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige là-haut. Nous nous baladons au bord de l'eau. C'est plus pittoresque et beaucoup moins banal que Venise avec son grand canal.
C'est qu'un riche financier est plus malheureux qu'un savetier.
Ah oui? Mais le savetier n'est pas plus avancé, car les cordonniers sont mal chaussés.
On voit peu de corses chez les corsetiers.
Pas de papes chez les papetiers.
Oui, oui.
Mais il y a toujours et dans tous les quartiers
des égouts pour tous les égoutiers. Joli métier que celui des gouttiers. Égouttier, ah le joli métier des gouttiers.
C'est à moi maintenant. C'est trop terre à terre d'être terrassier.
Et ça jette un froid d'être glacier.
On voit tout à noir quand on est charbonnier. On se barbe quand on est barbier.
Nous connaissons tous la vie du père, cette terre, et la triste vie du ramoneur.
Si vous connaissiez celle de l'épicier,
vous seriez heureux d'être égouttier.
Et donc, voici Luis Mariano avec Annie Cordy en 1961. Annie Cordy, je vous l'ai dit, on la retrouve tout à l'heure.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi, Benoît. France Musique.
Tour de France, oui, une version un petit peu inhabituelle, une évocation un peu inhabituelle du Tour de France par Kraftwerk. Vous savez, les précurseurs de la techno dans les années 80, et ben, ils ont écrit plusieurs morceaux autour du Tour de France. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va évoquer le Tour de France, mais sans doute plutôt au son de l'accordéon. Laisse là le Tour de France de Kraftwerk pour retrouver mes deux invités, un fantaisiste qui a commencé Zazou, mais qui à 90 ans n'a pas du tout l'intention de s'arrêter, et puis un accordéoniste qui est un des grands stylistes de cet instrument, l'héritier en ligne directe des maîtres comme Gus Wieser et Tony Murena. Je veux parler de monsieur Armand Lassagne qui est ici avec Danny Morris.
Thank you.
Le Tourny, composé et merveilleusement joué par Armand Lassagne, c'était en 2002. Bonjour Armand Lassagne.
Bonjour.
Bonjour Dany Maurice.
Bonjour Benoît.
Pendant qu'on écoutait ça, vous disiez, ça c'est, moi qui vais écouter des balles tous les dimanches, ça c'est la vraie valse, ce qu'on vient d'entendre.
Bah, c'est-à-dire, c'est la vraie valse parce que c'est le vrai tempo, quoi. C'est bien délié, c'est joli, on retrouve la mélodie.
Et c'est rare aujourd'hui?
Bah, je dis pas ça, mais je dis,
les gens vont trop vite.
Ils jouent un peu vite pour moi, mais bon, moi je dis rien. À 90 ans, on dit le vieux, c'est toi. Alors, je dis plus rien, mais je préfère ça, voilà.
Armand Lassagne, je disais, vous êtes un grand styliste, hein. Vous êtes, on peut dire peut-être avec Marcel Azola, un des derniers héritiers en ligne directe de la grande tradition du swing accordéon, on peut dire ça.
Oui, mais enfin, il y en a quand même des gens qui aiment ça. Hein, qui,
oui.
C'est toujours, c'est quand même tout le temps à la mode, quoi, parce que ça tourne bien une valse,
oui.
Ça s'y prête. Et à l'accordéon, c'est quand même, on peut pas. Toutes les musiques ne passent pas bien toujours. Hein, ça
ouais.
dépend l'instrument et puis la façon de le jouer aussi, peut-être.
En tout cas, avec vous, c'est toujours un bonheur de vous entendre.
Ah, c'est très gentil, mais enfin, il n'y a pas de miracle. Hein,
on va revenir un petit peu sur quelques moments de votre carrière, mais puisqu'on a commencé avec le cyclisme, que j'ai intitulé l'émission d'aujourd'hui Sport et Accordéon, vous-même, quand vous étiez tout jeune, Armand, dans les années 50, je crois, vous avez joué au 6 jours de Paris.
Oui.
Ouais.
Enfin, je jouais, c'était vraiment, on jouait trois morceaux, puis on s'en allait.
Voilà, parce que les six jours, en fait, c'était bon,
ah,
donc
oui,
au Vélodrome d'hiver,
ah, oui, oui.
Cette grande fête là encore du cyclisme, mais il y avait toujours une animation musicale
ah,
en
oui,
fait.
Oui, oui, oui.
Donc vous arriviez sur le podium et.
Oui, mais j'accompagnais un jeune qui chantait.
Ouais.
On travaillait tous les deux, donc on jouait dans les cinémas. Pendant l'entracte, et puis voilà. Et
voilà, ça vous gagnez votre vie
bien,
comme ça, ouais.
On passait dans des choses très, très, très bonnes, plus ou moins bonnes, quoi, des fois, mais, et on avait été au 6 jours, quoi.
Au 6 jours de Paris.
On est passé, il n'y avait pas de problème, on a sorti l'accordéon, il a chanté deux, trois trucs, et j'ai accompagné, et on est parti, voilà.
Vous avez connu les 6 jours d'Annie Maurice?
C'était super sympa, j'allais voir mon copain Sanforder qui courait les 6 jours.
Ah bon?
Roger, oui, l'Alsacien.
Mais alors, comment ça se passait, le relais entre les...
Ah bah, ça dépend des courses, hein.
Oui.
Parce que y a, le dimanche, c'était la médaille. Enfin, ça dépend des courses, quoi. Il y a des courses, c'est pas les mêmes noms, quoi.
Ah oui, d'accord.
C'est pas le même genre de courses. Mais les six jours, c'était très intéressant. Comme disait Armand, il y avait, au milieu de la piste, il y avait les gens qui dînaient.
Ouais.
Déjeuner, puisque ça durait ouais. 6 jours. Et puis, il y avait les invités sur un podium. Et c'était vraiment extraordinaire. Une ambiance extraordinaire.
Ouais.
Et des connaisseurs, en plus.
Ouais.
Moi, il y avait, à l'époque, il y avait Sanfleben. Il y avait plein de coureurs comme ça. Pendant la guerre, il n'y avait pas grand-chose. Alors, on allait voir les 6 jours.
Les 6 jours.
Ouais.
Il faut dire, Dany Maurice, là aussi, on va revenir sur deux, trois aspects de votre belle aventure. Mais à propos de sport et accordéon, là aussi, vous, c'était un truc important. Hein. Même, je voyais que dans les années 50, notamment au Sable d'Olonne, puis à d'autres divers endroits, vous avez toujours organisé des soirées, vous, comme animateur fantaisiste, autour du sport.
Bah, c'est
et de la boxe, notamment, pas seulement de
cyclisme.
Oui,
mais c'est-à-dire que j'étais avec Charles Bazin, qui était le grand chef.
Grand accordéoniste.
Et le patron du Pierrot m'avait donné carte blanche. Parce que, bon, il me connaissait, c'est tombé sur moi, ça aurait été un autre, c'était pareil. Mais il fallait le faire. Donc, moi, j'étais foufou un petit peu. Armand, on a fait tellement des choses drôles avec Armand quand on était à la Croix de Malte. Donc, il sait de quoi je parle.
Alors, vous faisiez des matchs de boxe burlesque.
On organisait des soirées. Donc, on a organisé un match de boxe. On avait prévenu la presse. On avait monté un mini-ring avec le ring sablé. Et mon copain Jean-Jacques Avernisi et Jacques Duménil, qui était champion de France à l'époque, nous avaient donné un coup de main. Évidemment, c'était burlesque, mais le problème, c'est qu'il y avait des gens qui étaient venus voir un combat de boxe.
Oui. Ils croyaient que c'était un vrai combat.
Et donc, à la fin, il y a eu du chahut. Mais enfin, Ted Tisserand qui a annoncé, il dit, monsieur, c'est pas ici, si vous voyez bien que c'est un cabaret dancing. Vous avez pas compris, évidemment. Jean-Jacques Avernisi, il était descendu avec le truc de France et moi avec Kin Batling, il m'avait appelé. Batling Ferraille.
Batling Ferraille.
Et puis voilà, alors, j'avais pris un coup de poing, j'ai traversé la vitrine et puis j'ai travaillé 6 jours avec la joue comme ça. Voilà,
le sport, et le sport burlesque. Ça amène. Vous connaissez depuis longtemps tous les deux, hein, Armand Lassagne.
Oui, 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 oui.
Vous êtes connu à l'époque où vous jouiez dans un dancing de Belleville. Hein,
voilà, c'est ça.
Qui s'appelait
La taverne de Belleville, ouais.
Un petit bal musette. Ouais.
Et lui, avant, il était...
Au Fantasio, en face.
Qui était juste en face. Il fallait traverser la rue. Et
voilà.
Au
sous-sol. Ouais. C'était très agréable.
Moi, j'ai joué dans le café. Là, ouais. Il y avait une guitariste qui jouait très bien, un batteur.
Là, c'était pour les danseurs. Hein.
Ah oui.
Voilà. Oui. Avec donc le bon tempo. C'est quoi le bon tempo pour que ça tourne bien sur le...
C'est la base de la danse, quand même. Il faut qu'elle soit bien structurée pour que ça se passe bien, quoi.
Alors, on va revenir un petit peu à tout ça dans un instant, mais puisqu'on est avec un fantaisiste, Dany Maurice, j'ai choisi un autre fantaisiste qui évoque le maillot jaune, c'est monsieur Marcel Amont.
Attend le tour de France. Ah, quel tintamarre, ah, quel pavé dans la mare. Avec plus d'un quart d'heure d'avance, un petit gars tout seul pédale entre les tilleuls. Il a le maillot, il a le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Ça s'est fait dans un éclair au matin clair. Tous les gros bras s'observaient, pas d'accord. C'est alors qu'il a résolu le problème. Il a bondi dans le décor sur son vélo faisant corps avec lui-même. Le guidon vissait dans les paumes, un ultime effort. Et voilà, c'est lui le plus fort. Dans la clameur du vélodrome, les bras chargés de fleurs, il pédale tout en douceur. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo, lui sourit, salue de la main. Mais le lendemain, le troupeau bariolé s'avance au coup de pistolet. Oh, quel envolé de mollet. Dans le peloton qui s'élance, un petit gars prudent pédale en serrant les dents. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo. Mais lui se dit pour le garder, ça va barder. Dans les descentes, c'est la grande émotion. Et là-haut, dans l'école, le froid qui passe. Oui, mais au bout, quelle sensation quand on entend l'ovation du Parc des Princes. Dans l'aube fraîche où rien ne bouge, sans corps brûlé de soleil, dorment d'un profond sommeil. Et tous, même la lanterne rouge, rêvent qu'à Paris, tout le monde se lève dans un cri. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, la foule crie bravo, et chante sur l'air des lampions pour son champion. Il a le maillot, il a le maillot, le maillot bouton d'or, le maillot jaune. Il a le maillot, vite à la maison, pour voir son triomphe à la télévision.
Et on le salue, Marcel Amont, il nous écoute peut-être, voilà, dans cet hommage, en tout cas, au Tour de France, un des grands chanteurs fantaisistes, parmi tous ces gens de la chanson française, dont certains, d'ailleurs, que vous avez accompagnés, Armand Lassagne, hein, on pourrait citer Colette Renard, que vous avez accompagné beaucoup.
Oui, il y a des gens que j'ai... Oui, il y a Colette Renard, avec Raymond Legrand, son mari.
Qui était son mari à ce moment-là, oui, vous avez beaucoup travaillé avec elle. Georgette Plana.
Georgette Plana, oui. J'aimais beaucoup tous ces gens-là.
Et puis Guy Béard.
Guy Béard, oui. Oh là, je me rappelle même plus, je ne vais pas dire tous les...
Et alors, il y a quelqu'un qui vous avait aussi pris en amitié, avec qui vous n'avez pas travaillé, mais qui vous étiez dans les mêmes tours de chant, c'était Georges Brassens, ça, hein?
Ah oui, Brassens, c'était quelqu'un. Hein.
Mais il aimait bien vous avoir avec lui.
Oui. Eh bien, on va aller boire un coup. Après, il me ramenait dans sa loge, il s'échauffait et tout ça. Puis moi, après, j'allais l'écouter parce que ça m'intéressait beaucoup. Hein. C'était nouveau, hein, voilà, à l'époque.
Les liens, en tout cas, entre le monde de la chanson et celui de l'accordéon, ils sont très, très nombreux. Et alors, quant à vous, Dany Maurice, je commence par vous parce que vous êtes le privilège de l'âge, je veux pas...
Quand même,
un petit peu. Hein. Oui. Vous avez commencé, alors, car je disais tout à l'heure, Zazou.
Ben c'était pendant la guerre.
Vous étiez un petit adolescent, jeune homme.
Il y a des azous dans mon quartier. Voilà. Chantaient.
Dans mon métier, je crois. Voilà.
Et vous étiez vraiment un zazou?
Ah oui, ben on était habillés zazous. On avait déjà les cheveux longs, on avait des revers pantalons comme ça.
Ouais.
Et oui, bien sûr, c'était une mode. Après, il y a eu les punks. Enfin, il y a toujours une mode dans les.
Ah oui, vous avez précédé les punks, voilà. En fait. Oui, d'accord.
C'était les azous dans mon quartier. Chantait Georgius, voilà. Bon.
Votre quartier, c'était Belleville.
Pas tout à fait, c'était le colonel Fabien.
Colonel Fabien.
C'était la place du combat avant. Après, ouais. C'était colonel Fabien, parce que le colonel Fabien, c'était un FTP qui habitait à côté, ils ont donné son nom à la place. Voilà.
Alors, comment est-ce que vous êtes devenu fantaisiste dans les spectacles d'accordéon et de chansons?
C'est à la libération de Paris.
Ouais.
Le 29 août 44, ouais. Il y avait, les FTP et les FFI venaient de prendre le tunnel.
Ouais.
Début de chemin, ils ont sorti deux Allemands qui ont des vieux, ils ont des cafertis, qui disaient qu'ils avaient un train de munitions. Et le soir même, les Allemands étaient partis, ils devaient être vers Pontoise, sur la place de la mairie, dans le 19e. Le patron avait sorti son billard un peu, il avait mis des planches dessus et trois musiciens. Ah. Alors c'était une fête incommensurable. Ouais. 5 ans de privation, interdit de danser, interdit de manger, taisez-vous, là là. Donc c'était quelque chose de fantastique. Alors tout le monde chantait, l'accordéoniste jouait quelques morceaux de l'époque. Et puis moi j'étais dans mon coin, elle me dit ben, « qu'est-ce que vous faites là ?» Ben, j'écoute. Dit, vous chantez pas? J'ai dit non, moi je fais des bruitages. Donc, on dit, qu'est-ce que vous faites comme? Ben, j'ai fait Mathurin Popeye. Or, Mathurin Popeye, c'était le truc, le plus grand dessin animé de l'époque. Et j'ai fait Mathurin Popeye, papa, ils en serrent leurs mains. Et donc, j'ai jamais su si c'était Popeye, au moins qu'on applaudissait tellement les gens étaient heureux.
Bah, les deux, peut-être.
Voilà, les deux, peut-être, voilà.
Mais vous aviez une nature, ça devait commencer, oui, ça a dû commencer plus jeune, à mon avis.
Avant, ouais. J'allais au patronage laïc de la vie de Mathurin Moreau avec Marcel Mouloudji.
Avec Mouloudji.
Oui, bien sûr, et son frère André.
Ouais.
Et puis après, donc là, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ce 29 août 44, vous devriez faire votre métier. Moi, j'étais à l'époque, je sais plus ce que je faisais, j'en ai fait 50 des métiers. Et petit à petit, je me suis mis là, et puis j'ai rencontré Charles Bazin.
Voilà, Charles Bazin. C'était un grand maître de l'accordéon, Armand Lassagne, Charles Bazin.
Oui.
Plus dans le style jazz.
Oui.
Voilà.
Très jazzy.
Oui.
Spécial jazz, oui.
C'est le premier que j'ai connu dans le métier, mais ben c'était un peu par ton entremise.
Oui, il était en face, c'est ça.
Parce que tu m'avais dit, il fait un truc là, il y avait les petits bonhommes, je ne sais plus comment.
Tout à fait.
C'était un truc de vélo, là. Il cherchait.
C'est aussi vieux tout ça, 52, ça doit être.
Oui, c'est vrai.
Ou 51, je ne sais plus, enfin peu importe.
Et c'est un des premiers que vous avez connu donc, dans ce métier
Ben c'est Charlet, le premier que j'ai connu, mais c'est Danny que j'ai connu dans le métier.
Voilà.
Mais...
Donc ça, c'était au tout début des années 50. Hein.
Ah, oui. Voilà, c'est ça.
Voilà. Et donc, vous êtes devenu l'animateur des spectacles de Charles Bazin.
J'allais donc danser sur ce Fantasio Dancing qui était réservé aux jeunes. Il y avait des jeunes. Tous les bals musettes, c'était les anciens. Et là, c'était entre 18 et 25 ans. Et des jeunes. Alors, Charles, c'était l'orchestre pour nous. Alors, moi, je dansais très bien. Je faisais des mimes, du bruitage. Puis, finalement, les deux dernières années que Charles était d'abord, j'étais dans l'orchestre. J'ai après joué un peu de batterie, un peu de maracas, tout ça. Et puis, un jour, il est arrivé, il me dit, Danny, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle, la table. Voilà. Je quitte le Fantasio. Oh, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ben, il me dit, tu vas venir avec moi. Ah bon? Très bien. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Ce que tu fais là depuis 2 ans.
Et on va tourner.
Et on va tourner. Et puis, Ted Tisserand, ils ont été charmants avec moi, les copains musiciens. On a rodé mes sketchs et j'ai appris le métier. Et voilà. Il n'était pas facile, Charles. Articule, qu'il disait quand il parle dans le micro. Et puis après, bah, c'est parti. Voilà. Je devais avoir des dons puisque j'avais quand même une petite carrière.
On va retrouver tout de suite une ambiance du Tour de France. Là, c'est un Tour de France d'avant-guerre. Et puis, tout de suite après, une dame de la qui a beaucoup accompagné la grande boucle.
C'est devant une foule considérable et dans un enthousiasme indescriptible tel qu'on n'en avait pas vu depuis le défilé de l'armistice de 1919 que M. Henri Desgranges, debout dans son Hotchkiss, tel César, impérator sur son char, a donné le jeudi 3 juillet à 8h du matin le départ du Tour de France 1934. Les 60 coureurs, répartis en 5 équipes nationales et 21 individuels, ont remonté, sous les acclamations du public, les Champs-Élysées avant de se rendre au Vésinet, où a eu lieu le départ réel de l'étape qui les mènera à Lille. L'équipe de France, derrière son capitaine Charles Pélissier, a été particulièrement applaudie, sous l'œil un peu mélancolique du populaire Dédé Leduc, en casquette torpedo, écarté de la sélection pour une histoire de gros sous. Gageons cependant que les Speicher, la Pébi et autres Antonin Magne sauront nous faire vibrer et se montreront dignes des trois couleurs de la France qu'ils arborent sur leur maillot.
Et c'était bien sûr Yvette Horner, oui, l'accordéoniste du Tour de France. Vous la connaissez depuis longtemps, j'imagine, Armand Lassagne.
Oui, ben on était un peu dans les mêmes émissions, quand c'était les émissions d'accordéon, quoi qu'il y avait.
Oui, d'ailleurs, il faut dire, ça a joué un rôle un petit peu au début de votre carrière, justement, ces émissions d'accordéon, qui étaient à l'époque sur l'ancêtre de France Inter, qui était le Poste Parisien, où vous êtes venu un petit peu par hasard remplacer...
Non, par hasard, on a été quelques-uns dans les jeunes à venir, et puis ça se passait bien, on travaillait, on était accompagné par Folchetti, qui était le guitariste de Charles et Bazin, et lui, il faisait l'accompagnement, tout ça, et ça se passait bien, ça a beaucoup plu et tout, finalement, on venait toutes les semaines.
Donc c'était du direct, toutes les semaines, vous jouiez chacun
C'était du direct enregistré.
Ah oui, d'accord, oui.
Hein, mais on répétait qu'une fois, pour voir, ça va, bon, allez, hop, on le jouait, terminé.
Et c'était un petit concert d'accordéon avec plusieurs accordéonistes ou...
Oui, bah, c'est-à-dire qu'il y avait plus... L'émission, je ne me rappelle plus le temps que ça prenait, mais enfin, c'était peut-être une heure ou trois quarts d'heure, à peu près, mais ça fait qu'on était plusieurs à pouvoir passer, quoi.
Oui, oui, c'est bien. Alors là, il faut qu'on ressorte tous ces enregistrements de la radio, parce que là, on va retrouver le tout jeune Lassagne.
Ah oui, c'est possible. Je ne sais pas si on peut les trouver.
Vous étiez déjà proche à ce moment-là des grands aînés, là, comme Viseur ou Privat, par exemple. Ah bah, vous les avez connus rapidement.
Ah non, je ne les connaissais pas.
Vous ne les connaissiez pas encore.
Je les connaissais de nom, quoi.
Vous les admiriez.
Oui, mais je ne les connaissais pas. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont des choses que... qu'on ne savait pas faire, nous. Hein.
Mais Privat, il vous a un petit peu aidé pour vos premiers enregistrements, d'après ce que j'ai lu.
Oui, c'est-à-dire, un jour, j'ai été le voir, mais c'était déjà plus d'un an après, quand même.
Ouais.
Hein, là, je commençais déjà à tourner un peu, et tout ça, j'étais à la Croix de Malte. Et donc, il avait aimé ce que je faisais. Il m'avait demandé, viens me faire un bœuf et tout ça. Alors, je suis monté jouer un ou deux morceaux pour lui faire plaisir. Et de là, on est parti. Et puis, il m'a dit, mais je vais te mettre dans le coup pour qu'il te fasse enregistrer s'il peut. Celui qui l'y avait lancé, lui, il m'a lancé moi aussi par la même occasion.
Quoi. Voilà, il vous a envoyé chez Deka, je crois, et chez Odéon oui. pour les premiers disques. Hein.
Oui, oui.
Alors, la Croix de Malte, vous avez cité ce nom, Armand Lassagne, c'était le haut lieu de l'accordéon à ce moment-là. Vous avez joué très longtemps. Hein.
Ah, moi, oui, ça, j'ai certainement battu le record parce que je suis passé, j'ai fait une année plus un mois.
Voilà, c'est ça. Mais là, c'était, alors, contrairement à la Taverne de Belleville, c'était l'ambiance concert plutôt.
Ah,
hein.
oui.
Voilà.
Oui, oui.
Vous aviez un groupe, donc.
Oui. Et une très bonne. J'avais Zabani, qui est un bassiste.
Ouais.
J'avais Jacques Harry, qui était batteur.
Ouais.
Et souvent, il travaillait avec Aimable, Jacques Harry. Mais des fois, il y avait des bisbis et ils arrêtaient d'être ensemble. Mais enfin, c'était un jeu. Et j'avais Louis Faïs.
Ouais.
À la guitare, qui est un très très bon musicien. Maintenant, il est décédé. Il a son fils aussi qui a fait de la guitare, mais il n'a pas connu son fils.
J'imagine, Danny Maurice, vous avez connu la Croix de Malte, donc au lieu
de toujours fourré là-bas.
Toujours
moi, je travaillais le samedi, le dimanche, et toute la semaine, j'allais voir les copains, dont Armand, tous. Tata venait à même jouer, Viseur, Laurent Zanni, enfin tous. Puis c'était une ambiance indescriptible.
Alors, l'autre endroit où vous avez beaucoup joué, Armand Lassagne, c'est le petit jardin, enfin le jardin d'ailleurs, qu'on appelle le petit jardin.
Oui, oui.
Alors là, c'était pas du tout la même ambiance, c'était plus canaille. Hein.
Ah oui, et là, c'était un peu comme le Balageau, quoi.
Voilà, c'est
peu...
ça.
Mais c'était avant le Balageau, à vrai dire, parce que là, il est passé beaucoup de monde. Jean Gourenart avec Guérino qui ont joué au petit jardin.
Avenue de Clichy, Avenue de Clichy.
Oui, oui.
Mais là, les tables même étaient fixées au sol à cause des bagarres.
Tous les balmusettes, oui.
C'est ça.
Oui, c'était...
Vous avez assisté à des moments chauds comme ça?
Oui, mais enfin, ça, on arrangeait les choses en général. Quoi.
Bon. Mais là, il fallait aussi être impeccable pour les danseurs, parce que c'était des bons danseurs, j'imagine, comme au Balageau.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, ça se passait bien en général.
En tout cas, voilà quelques aspects de cette vie parisienne de l'accordéon qui était encore fabuleuse dans les années 50-60,
qui
reste pas grand-chose aujourd'hui.
Ah oui, malheureusement.
On vous a écouté dans une valse, là on va vous retrouver tout de suite plutôt dans un swing Comics 2000. We'll be right back. Comics 2000, c'était Armand Lassagne, un disque que j'ai depuis très longtemps, mon cher Armand, avec Joe Privat, Jean Corti, Daniel Collin, qu'on salue, et vous-même, oui, oui. Et les maîtres, les grands maîtres du genre, qui avaient été rassemblés ici par Didier Roussin. Faut dire un mot, parce que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup compté, hein, Didier Roussin.
Oui, c'était quelqu'un de très bien, j'aimais beaucoup.
Il était guitariste.
Il a
beaucoup fait pour la redécouverte un peu de l'accordéon.
Oui.
Notamment un livre magnifique chez Climat. Ce qui fait d'ailleurs que vous, Armand Lassagne, quand s'est développé ce renouveau de l'accordéon autour de tout ce mouvement qui s'est intitulé Paris Musette, le premier disque de Paris Musette s'ouvre par un titre que vous avez enregistré, Le Douce Joie de Viseur.
Oui. C'était mon disque préféré, ça, parce que j'apprenais en écoutant la radio, j'entendais les grands noms quoi qui sortaient quoi, et je me demandais comment ils faisaient pour
jouer aussi.
C'était libre et sans être libre, mais ça soulignait, il y avait des choses formidables.
Qualité d'expression.
Qui sont pas écrites sur la partition quoi. Alors moi ça me guidait pour savoir comment gérer un peu les morceaux. On peut le faire sur certains morceaux, pas sur tous, n'importe comment.
Bien sûr. Mais ça a été le début quand même d'un petit renouveau de l'accordéon. Au fond, aujourd'hui, l'accordéon est peut-être mieux vu que dans les années 70, 80, où c'était complètement passé de mode.
C'était tenu par Léon Hagel. Oui. Léon Hagel, c'est en face de la Croix de Malte, il y avait un marchand de musique, je ne sais pas si vous connaissez un peu. Oui. Mais là, c'était lui, Léon Hagel, qui avait le magasin de musique. Et c'est lui qui servait pour inviter tout le monde et parler et tout ça. Et c'est bien, quoi.
Le renouveau de l'accordéon, Danny Morris, c'est aussi quelque chose qui vous tient à cœur, parce que vous avez beau avoir fait toute une carrière de fantaisiste, on y reviendra peut-être, notamment chez Jacques Ellian, depuis des années, vous vous battez pour l'accordéon.
C'est-à-dire, j'aime pas la chasse, j'aime pas la pêche, j'aime pas les boules, donc je reste dans mon métier, et tous les samedis, tous les dimanches, pratiquement, je suis invité dans toute la France, la Belgique, la Suisse, même en Italie, une fois. Alors, je vais dans les festivals, je fais un petit compte-rendu dans la rue, et puis je vois tous les jeunes, quoi.
Oui, mais je veux dire, l'accordéon, ça vous tient, vous n'êtes pas accordéoniste.
Non, pas du tout.
Mais c'est l'instrument qui vous intéresse, quoi. Vous passionne, pour lequel vous vous battez.
L'accordéon et d'autres musiques, d'autres instruments.
Oui, enfin, revue que vous publiez.
C'est-à-dire, je veux, en faisant ça, je rends hommage à Charles Bazin qui m'a mis dans ce merveilleux métier.
Voilà.
Alors, donc, je vais dans tous les festivals. Là, je m'en vais à côté de Limoges, là.
Ouais.
Et là, y a une quinzaine d'accordéonistes dans les deux jours. Et bien sûr,
Les enregistrez et vous faites disques, non?
Pas du tout. Non.
Ah non,
quand je fais mes CD, ça c'est avec les amis, ça.
Voilà. Bah,
avec Armand, Armand va enregistrer deux trucs, un super passeur, qui a de la marre, une très jolie valse d'ailleurs, qu'on a fait ensemble, que a fait Armand. Avec voilà. Et donc ça c'est mon côté. Comment dit-on? Pas compositeur, mais. Avec
vous rassemblez les gens.
Je rassemble les copains musiciens,
voilà.
Et on fait des titres, et puis j'en mets 20 sur un CD, et puis voilà, quoi, ça me maintient en forme, je reste dans mon métier, voilà.
Voilà, et vous diffusez tout ça
simple.
À compte d'auteur, il y a une petite revue, c'est passionnant, on redira tout ça tout à l'heure.
Oui.
On va écouter un des titres de votre collection, justement, ça s'appelle À chacun son tour de France, c'est l'occasion.
C'est l'occasion, alors.
Alors, qui est-ce qui joue, là?
Alors, c'est Christian Coupas qui a écrit ça, avec Bernard Marly.
Bernard Marly, autre accordéoniste.
Un autre accordéoniste.
Qui a fait d'ailleurs pas mal de
tours du vélo. Il a fait beaucoup de France, Bernard. D'ailleurs, il fait celui-ci, d'ailleurs.
Ah bon, d'accord.
Le départ, là, oui, Bernard, voilà.
Ah oui, l'accordéon est toujours là sur le Tour de France, aujourd'hui.
Oui, bien sûr, mais différemment.
Différemment.
Il joue à la fin des étapes.
Il joue avec la barbe. Non, je crois que tu allais dire, il joue avec la barbe.
Ah non, quand même pas. Non. Ça, c'est 1930, c'est passé. Mais moi, j'en ai fait. J'ai fait les 4 jours de Dunkerque, le Midi Libre, avec, comment il s'appelait, l'accordéoniste qui était au tourbillon.
Voilà, donc vous avez suivi aussi toutes les courses.
J'ai fait le Dauphiné Libéré, tout ça.
Bon, alors on va écouter à chacun son tour de France. Thank you. Bonjour Annie Cordy.
Bonjour, vous allez bien?
Ah bah très bien, bah quand je vous entends ça va toujours bien, je suis vraiment content.
C'est gentil, merci.
Vous soyez avec
bonjour
nous ce matin.
À tous ceux qui nous écoutent.
D'autant plus que vous êtes en Californie, c'est pas tout près.
Ah bah non, ça c'est vrai.
Enfin non, je précise, c'est le nom d'un quartier de Cannes. Hein, voilà.
Oui, absolument, remettons les choses au point, hein, voilà.
Alors chère Annie, je pouvais pas faire cette émission sport et accordéon au moment du départ du Tour de France sans vous passer un petit coup de fil, parce que en fait vous, dès vos premiers succès en 1952, vous êtes parti sur le Tour de France pendant
absolument
plusieurs années.
Hein. Oui, avec Ricard.
Avec Ricard.
Parce que Ricard, c'est le vrai partisan de Marseille, voilà.
Mais il faut dire parce que à l'époque, en fait, c'était des marques qui payaient les vedettes qui étaient sur le
absolument
Tour de France.
Hein? Ben oui, mais là, il y a eu Ricard et puis après j'ai eu Butagaz. Enfin,
Butagaz.
Butagaz, oui, voilà.
Et la Suze, etc. Oui. Alors, donc, vous étiez sur le Tour, ça voulait dire que vous suiviez l'étape en voiture?
Pas obligatoirement, hein. On pouvait, mais oui, parce que ça dépendait des contraintes. Mais on passait devant, avant les coureurs, dans la caravane publicitaire, quoi.
Oui.
Ça s'appelait la caravane publicitaire.
Vous étiez avant les coureurs.
De denrées et tout ça, on faisait la publicité. Et moi, j'étais en voiture, en décapotable, et j'étais assise sur le siège avant, sur le haut du siège avant. Hein.
Oui.
Pas dans le fauteuil.
Oui, pour qu'on vous voit bien, oui, bien sûr.
Oui. Et je me prenais pour De Gaulle. Et bonjour. Et alors, mon mari, il disait, tu vas voir, là-bas, on va arriver dans un coin, il y a 4-5 femmes, là, tu vas voir comment ça... Et on arrivait vers les femmes, elles me reconnaissaient, elles se levaient d'un bon, allez. C'est extraordinaire. Bon, l'ambiance était fantastique. Hein.
C'était une belle voiture, c'était quelquefois une Cadillac. Hein.
C'était une Cadillac.
Une Cadillac, la moindre des choses, ouais, quoi,
oui,
Annie Cordy.
Hein. Et on m'avait mis un aileron sur le bagage arrière, hein. Et j'avais des ronds, il y avait marqué Annie Cordy, enfin bref, dément, mais très sympathique. Hein.
Et vraiment. Alors donc, vous étiez avant les coureurs. Hein,
ah oui, absolument.
Mais il y avait le danger qui vous rattrape alors.
Et alors non, mais de temps en temps, on avait quelqu'un qui arrivait, avancez, dépêchez-vous, alors on cabalait, il hein, fallait faire vite. Hein.
Ben oui, j'imagine.
Ah ben oui, parce que sinon on avait peloton dans le dos, hein. C'était pas possible.
Alors j'ai vu d'ailleurs des tas de photos, alors là vous embrassez Louison Bobet, vous embrassez Raymond Poulidor.
Anquetil n'était pas dans le Tour de France, je ne sais plus.
Anquetil, bien sûr, mais Anquetil, vous l'avez aussi connu dans une autre tournée, c'est ça, avec Europe 1. Hein.
Ah, c'est ça, voilà. Je les ai tous connus, hein, Louison Bobet, hein, tout ça, et Van Steenbergen, tout ça, je me dis, oh là là.
Eddy Merckx.
Eddy Merckx, oui, plein.
Et Anquetil, dans cette tournée, il faisait des démonstrations de vélo.
Oui,
hein.
Alors, j'étais avec Europe, je pense, oui.
Oui.
Alors, on installait deux bicyclettes,
oui.
Une pour Anquetil, oui. Et autre, on faisait monter un gars qui voulait bien faire un championnat contre Anquetil. Alors, on avait Anquetil et un monsieur, qu'on a, un téléspectateur, qui voulait bien faire le concours. Alors, c'était celui qui roulait le plus vite. Enfin, bref,
voilà.
C'était très amusant. Quoi.
Alors, quant aux étapes du Tour de France, donc, elles se terminaient par un tour de champ, et là, vous étiez donc évidemment la vedette à l'étape d'arrivée. Hein.
Ah oui, oui, ça c'était très, très chouette, oui, vraiment très. Et puis c'était très sympathique.
Voilà.
Ça nous amusait avec mon mari, on disait, tu vas voir, elles sont installées, les femmes là-bas, tu vas arriver, tu vas voir. Elles se levaient comme des ressorts à boudin. Waouh, Annie, extraordinaire. L'ambiance, on ne s'en rend pas compte, une ambiance formidable.
Et vous avez évidemment là rencontré, je suppose, la chère Yvette Horner, aimable et tous les accordéonistes.
Là, Yvette, on se croisait de temps en temps. Ou alors elle me dépassait parce qu'elle était pressée pour arriver à l'arrivée, c'est le cas de le dire, parce qu'elle devait être à l'arrivée avant les coureurs.
Ah oui, alors elle vous doublait avec sa voiture.
Eh oui. C'était pas pour babon, c'était la seule qui passait, hein, parce que c'était quand même très, très, très bien gardé. Hein,
Et quand il pleuvait sur la route, vous étiez quand même dans votre décapotable à saluer le public.
J'étais comme douche, oh là là. Alors j'étais assise au-dessus du siège. Dans le fauteuil, sur le haut du siège. Et je faisais comme De Gaulle, quoi. Et on prenait la flotte, enfin bref. Mais c'était très sympathique, vraiment.
Bah écoutez, merci beaucoup Annie pour cette évocation de vos tours de France. Je rappelle que vous l'avez fait de 1952 jusqu'en 1960.
Alors je fais 52, 54, 55... 60.
Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez un petit peu quitté Paris, vous êtes dans la région de Cannes, mais vous avez plein de projets, je crois, notamment au cinéma.
Oui, absolument. Voilà.
Voilà. Donc, j'espère que vous.
Je profite un peu de ma maison.
Voilà. Mais j'espère que vous viendrez nous voir à la radio dès que vous reviendrez à Paris, hein.
Oh, avec grand, grand plaisir. En attendant, je vous embrasse très fort. Et tous ceux qui nous écoutent, je vous fais des gros bisous à tous.
Merci, Annie.
Je pourrais chanter où je veux comme je veux. Ouais. Tant que je pourrais danser où je veux comme je veux. Je dirais ça va, mon Dieu, ça va, c'est normal. Et à rien de changer, la vie est belle. Ouais, ouais. C'est pas grand chose, bien sûr, mais c'est principal. Pas grand chose, mais vive la liberté. Tant que je pourrais. Qu'il me plaît, pour moi tout sera merveilleux. Laisse tourner la terre, c'est pas ton affaire. Dis, maman, que ça va, c'est très bien comme ça. Tant que je pourrais, de temps en temps aller dîner, oui, avec mes copains et boire du bon vin. Je dirais, tiens, rien n'a changé. Rien n'a changé, Annie, ça va, c'est normal. Et si ça peut continuer encore longtemps, eh bien c'est le principal. Principal, bien sûr, c'est la santé. Tant que je pourrais danser, chanter où je veux. Tant que je pourrais faire ce qu'il me plaît, je dirais merci, merci mon Dieu. Tant que je vivrai, je dirai merci, mon Dieu.
Et oui, imaginez qu'il y a plus de 50 ans qu'elle chantait ça, la chère Annie Cordy, et on est heureux de l'entendre toujours avec nous ce matin. Vous l'avez même accompagnée, Armand Lassagne.
Oui, j'ai accompagné quelques fois à la télévision, notamment, et une fois où elle a chanté l'accordéoniste, il y avait son pianiste et moi qui pour l'accompagner, quoi, et ça avait très bien marché, elle avait fait une très belle chanson de l'accordéoniste.
Il faut dire d'ailleurs que vous avez, en dehors des bals qu'on a évoqués tout à l'heure, vous avez travaillé notamment beaucoup, par exemple, avec le grand orchestre de Raymond Lefebvre. Hein.
Oui, bien sûr, oui. Oui, au moins plus de 10 ans, on a fait.
Ensemble. Et ça, c'était une vraie sympathie. Hein.
Ah, bien sûr, oui.
Donc, vous teniez toutes les partitions d'accordéon dans les enregistrements, les émissions, etc., de l'orchestre.
Ah, bah oui, bien sûr. Oui. Hein. Oui, oui.
Et puis on vous a vu encore souvent chez Pascal Sevran aussi, quelques années
oui,
après.
Ben, ça a duré 5 ans aussi, enfin c'est un peu plus. Même.
Un peu plus. Voilà, ce qui était aussi peut-être tout ça, des façons de continuer le métier à des moments où ça a été plus difficile, parce que tous les bals avaient disparu, les concerts à Paris avaient quasiment disparu
oui,
aussi.
Hein. Ouais. Non, puis il faut aimer ça, moi j'aime beaucoup accompagner les artistes,
oui.
Notamment quand c'est des bons artistes, c'est formidable quand même, parce qu'ils connaissent leur métier, ils savent bien ce qu'il faut
bien
faire. C'est très très agréable de les accompagner, j'aime beaucoup ça.
Dany Maurice, on n'a pas évoqué en détail, du moins j'ai juste cité son nom tout à l'heure, votre passage, il faut en parler quand même parce qu'il y a plein d'admirateurs dans le public, chez Jacques Ellian.
Ah oui, je suis resté 5 ans chez Jacques Ellian.
Voilà, comment vous étiez entré là?
Pardon?
Comment il vous avait engagé?
Eh bien, c'est curieux parce que je venais de finir le Midi Libre. Avec l'accordoniste.
C'est quoi le Midi Libre?
Le Midi Libre, c'est une course cycliste.
Ah bah vous voyez, encore le vélo. Hein,
encore ouais. Le vélo, mais on était à Perpignan. Et je ne me rappelle plus, c'était l'accordoniste du Tourbillon, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un petit trou de mémoire là.
Ouais.
Et donc, il me dit au revoir, je m'en vais tout de suite. Je dis comment tu t'en vas tout de suite, tu ne restes pas là? Non, non, il me dit je vais chercher un accordéon en Italie. Ah bah j'ai écouté, ça t'ennuie de me laisser à Sainte-Maxime? Comme j'avais la maison là-bas à l'époque. Alors voilà, et puis donc j'avais pris mon ticket de train et gardé un peu d'argent.
Ouais.
Je rentre à Paris, j'ouvre la porte, brrr, téléphone. Allô, c'est Jacques Ellian. J'ai dit oui, je suis Napoléon III, moi. Je croyais que c'était un copain qui me faisait une blague. C'était vrai. Et donc, de palabre en palabre, j'ai dit, vous avez qu'à m'envoyer un télégramme. À l'époque, c'était un télégramme. 2 heures à peine, j'ai le télégramme. Début de tournée, mai 1958... Rendez-vous immédiatement chez moi. Alors, je suis allé chez Jacques Ellian. Et puis, on a commencé les répétitions. Puis, moi, je sortais d'un orchestre de 6 musiciens, la 20, c'est plus
20,
pareil.
Oui.
Il y avait Gérard Lévesque qui faisait les arrangements, Yvan Julien.
Vous étiez le seul
Michel
animateur?
Vous
répartissiez les
non,
rôles?
Non, il y avait un autre qui, c'était le mari de qui c'était, je sais plus.
Enfin, en tout cas, vous étiez.
Enfin, non, il y avait un, voilà. c'était un conteur, racontait beaucoup d'histoires. Mais
voilà.
Moi, chez Jacques Ellian, je faisais du mime, je chantais, je dansais. Et
voilà.
Je faisais beaucoup de bruitage.
C'était vraiment des orchestres de musical, hein. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment l'idée de ça, parce que.
Musical,
il y avait tous les numéros.
Ah oui, 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 oui.
Vous y êtes resté longtemps?
De 58 à 62.
Ouais.
Et encore un coup de rôle, je rentre chez moi, Gérard Lévesque, l'ancien de chez Ventura, il me dit, je sais que t'as quitté Jacques Ellian, t'as un orchestre. Il me dit, comment j'ai un orchestre? Il me dit, t'as un orchestre, je te fais les arrangements et tu rentreras chez Barclay. Je dis, attendez, Gérard, c'est une blague. Il me dit, non, c'est pas une blague. J'étais obligé de monter mon orchestre et je suis resté 10 ans chef d'orchestre pour le faire, ça.
Vous avez travaillé aussi avec notre ami, qu'on salue peut-être s'il nous écoute aujourd'hui, Marcel Azola.
10 ans, je suis resté avec Marcel Azola.
Et vous faisiez l'animateur avec Marcel?
Bah oui, mais c'est-à-dire, j'étais animateur.
Il a un côté sérieux, Marcel, comme ça, on l'imagine pas avec un animateur.
Non, je plaisante, mais je veux dire, moi, dans les animateurs, j'avais une classe un peu spéciale.
Ouais.
Parce que j'étais, d'après ce qu'on disait, que j'avais un petit peu un temps d'avance. Alors je faisais du mime, du bruitage, je chantais, je dansais. Les autres animateurs faisaient un peu la tarte à la crème, ces trucs-là. Alors c'était complètement... Je faisais beaucoup de mime, d'ailleurs. J'allais voir Marceau à chaque fois qu'il était à Paris.
Ah,
hein.
Oui.
Et j'ai tous les films de Chaplin.
Mauvaise langue saurait encore prétendre qu'un germe de mésentente existe au sein de l'équipe de France. La 16e étape, menant les géants de la route d'Ax-les-Thermes à Luchon, a donné lieu à une scène d'anthologie, magnifiant l'amitié sportive entre deux grands champions. En effet, René Vietto, le nouveau roi de la montagne, n'a pas hésité à rebrousser chemin, perdant ainsi toute chance de victoire personnelle pour secourir son leader Antonin Magne, victime d'un bris de chaîne dans la descente du Portet d'Aspet. Les larmes inondant le visage du jeune canois, qui s'était déjà sacrifié la veille dans le col du Puy Morin, loin d'être une preuve de faiblesse, font de lui à tout jamais une des plus nobles figures de la Grande Boucle. Une légende vient de naître.
Ludovic Beyer dans 100% musette, pardon.
Oui.
Un morceau que j'ai découvert dans un des disques que vous produisez, enregistré, CD d'Annie Maurice. Oui. Formidable, Ludovic Beyer. Moi, je
oui,
connaissais pas.
Hein. Oui, je l'ai connu à Pontoise.
Ah bon.
Il y avait un gars là, et quand je l'ai écouté avec un guitariste dont je me rappelle plus le nom, fantastique, je me suis permis d'aller le voir, mais j'aime pas trop déranger.
Ouais.
Il m'a dit, mais je sais que il m'a dit, je vous connais. Ah bon? Je dis, on s'est jamais vu. Il dit, mais je connais avec Marc Berthomieux qui vous a parlé de moi.
Marc Berthomieux, le compositeur?
Non, l'accordoniste.
L'accordoniste, pardon, oui.
Voilà. Et donc, on a sympathisé. Et puis, un jour, il dit, mais pourquoi on ferait pas un truc ensemble? J'ai beaucoup de chance de ce côté-là.
Parce qu'il fait une grande carrière du côté du jazz, hein, Beyer, j'ai l'impression.
Oui, aussi, hein. Il est souvent à New York, à la grande boîte de nuit à New York, là. Il est souvent là-bas.
Ouais,
et puis, on s'est liés d'amitié, et puis là, voilà, quoi, alors on fait des CD.
Alors, et donc, vous enregistrez des CD avec tous vos amis.
Oui.
Vous publiez des partitions.
Oui.
Vous avez écrit
des
plusieurs. Voilà. Vous avez aussi écrit des livres où vous racontez votre vie avec plein de photos, etc.
Oui, j'ai écrit 7 livres, dont 5 sont l'accordé.
Comment est-ce qu'on trouve tout ça? C'est de l'auto-édition, tout ça, Danny
Maurice.
Oui,
auto-éditeur, hein. Parce que les éditeurs, c'est spécial. Donc, j'ai le droit de faire l'auto-édition, mais avec les morceaux, je suis dedans.
Alors, si on veut se procurer, je dis bien, soyez attentifs, chers auditeurs, vous qui aimez l'accordé. Si vous voulez en savoir plus, avoir des disques, des partitions, les livres de Danny Maurice, il faut écrire à Danny Maurice, c'est 6 Square Bolivar dans le 19e, 6 Square Bolivar 75019. C'est le quartier de votre enfance, hein. Vous êtes resté fidèle. Hein.
Oui, je suis resté fidèle.
Voilà. Et quant à vous, Armand Lassalle, ce que je veux dire, c'est que, outre ce disque relativement récent, merveilleux, le tournis que vous avez sorti, je ne sais pas si vous avez d'autres projets d'enregistrement, mais vous avez aussi beaucoup transmis à beaucoup d'élèves. Hein.
Oui, j'ai
vous avez aimé enseigner.
Une bonne compagnie d'élèves qui marche très bien, qui font le métier d'ailleurs,
ouais.
Et qui sont très sympas et qui aiment bien du Danny Maurice, parce que j'en donne aussi de temps en temps.
Des partitions.
Des partitions.
Mais je crois que vous croyez aussi dans l'enseignement de l'accordéon que c'est important de travailler le classique aussi.
Plus on monte, ouais. C'est toujours intéressant. Il y a toujours des choses à observer, à connaître, et puis il y a du travail à faire.
Ouais.
On joue quand même pas la même chose. le mouvement perpétuel que le petit vin blanc, quand même. C'est pas une difficulté, ouais. Quoi.
Il faut faire les deux. Et
voilà, c'est ça, très bien.
En tout cas, vous avez défendu magnifiquement tous ces styles, et c'est toujours
Je
une joie
peux
de vous
me féliciter d'avoir des bons élèves qui font le métier d'ailleurs, et je pense à eux, je vous embrasse tous. Hein.
Vous êtes optimiste pour l'accordéon? Ça va mieux qu'il y a 20 ou 30 ans, peut-être, non?
Il y a des hauts et des bas, comme tout le temps, quoi. Ouais. C'est un peu normal, mais enfin, c'est des fois inquiétant, mais je crois pas, ça marche toujours quand même, finalement.
Vous sentez Danny Maurice?
Moi, tous les gars-là que je fais, le dernier que j'ai fait...
C'est pas seulement Troisième Âge?
Justement, Dans tous les galas, c'est le troisième âge. Mais j'ai remarqué
plusieurs
couples d'une trentaine d'années. Je suis allé le voir, j'ai dit, mais comment
mais
ça se fait
ça ben, se renouvelle,
ouais. Il me dit, j'ai 32 ans, ma femme 28. Quand on va dans les boîtes de jeunes, ils nous ignorent et on ne sait pas quoi faire. Il m'a dit, j'ai été au cours de danse et je viens danser là maintenant, comme ça.
Ah ben voilà.
Et y a, voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ils savent encore danser la toupie ?
Non, peut-être pas la toupie, les jeunes, mais il y a des jeunes danseurs. Il reste quelques vieux qui dansent encore la toupie.
Bon, bah merci à tous les deux. On va se quitter avec vous, Armand Lassagne, une jolie valse que vous avez enregistrée avec Didier Roussin, qu'on avait évoqué tout à l'heure, et Didier Duprat, qui était un autre grand Didier de la Duprat, guitare.
Oui, oui.
Voilà.
Oui,
oui. Et c'est dans le disque Paris Musette.
Merci de votre accueil et puis bonne continuation. J'adore votre émission.
C'est adorable. Merci à tous les deux.
Merci Benoît, quelle joie d'être avec Armand. Merci énormément.
Verdine par Armand Lassagne, un enregistrement que vous pouvez retrouver dans la collection Paris Musette chez Frémaux et Associés. C'est dans le volume intitulé Swing et Manouche.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Voilà, là, mais il est 12h14 sur France Musique. Et c'est le temps de retrouver la dernière chronique avant les grandes vacances. Avec Serge Laïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Et Serge qui nous a concocté un programme de circonstances.
Et oui, parce que c'est vous qui me l'avez suggéré d'être dans l'air du temps. Voilà. Et donc c'est avec un grand plaisir que j'ai fouillé dans ma discothèque pour retrouver quelques-unes des musiques pouvant illustrer les 250 disciplines sportives reconnues. Alors, pour débuter, on va traverser la Manche, on arrive au sud-ouest de Londres pour assister, comme la reine Elisabeth d'Angleterre ce jour-là, au fameux Derby d'Epsom, la course de pur sang, célèbre, disputée en juin.
Epsom Derby pour ouvrir cette chronique musique pour le sport, musique d'orchestre bien entendu, puisque c'est Serge Laïc qui nous les présente. Et là, c'était donc l'orchestre de Heinz Kissling en 1990.
Tout à fait. Alors, à la veille du match de quart de finale de demain soir de la Coupe d'Europe de football, donc demain soir dimanche entre France et Islande, je me sentais dans l'obligation d'encourager l'équipe de France par l'inévitable soutien. Allez France, aidé en l'occurrence par le capitaine Gérard Calvi et son grand orchestre.
Allez France, musique de Gérard Calvi pour le film éponyme de Robert Derry. C'était en 1964,
Serge Laïc. Et oui, alors retour en Angleterre, lieu de naissance du rugby, dans la ville du même nom. Eh bien, à la BBC, les émissions de télévision autour de ce sport ont eu un générique très entraînant composé par Brian Bennett, qui était tout simplement le batteur du célèbre groupe de guitaristes des Shadows.
Mackerel, c'est donc le rugby par Brian Bennett Band en 1975, mon cher Serge Lévy.
Alors, est-ce que, Benoît, j'ai besoin de vous rappeler qu'aujourd'hui, du Mont-Saint-Michel, s'élancent les 198 coureurs c'est du 103e Tour de France.
C'est bien cela.
Ouais. Et ils vont rejoindre tout à l'heure Utah Beach, Sainte-Marie-du-Mont, l'une des cinq plages du débarquement. Alors, pour encourager les coureurs en musique, eh bien, j'ai choisi Paul Bonneau et son grand orchestre qui interprètent la course en bicyclette, Bicycle Race. Et j'ai même retrouvé son fils Christian Bonneau, qui il y a quelques jours, parfait connaisseur de l'œuvre de son père, il se souvient avec détail de l'enregistrement de cette musique Bicycle Race. Il en dit quelques mots.
J'ai de très bons souvenirs. J'assistais, j'avais à l'époque 20 ans, à toutes les séances que mon père dirigeait. Je connais ce thème, Bicycle Race. C'est Roger Bourdin, qui me fait chaud au cœur, qui interprète la mélodie à la flûte. Donc les deux flûtes qu'on entend sont interprétées par Roger en re-recording, en doublage, si on veut, voilà. Et j'aime beaucoup dans ce morceau, d'abord la tonalité. C'est à l'origine écrit, je crois, en la majeur. Mon père, volontairement, l'avait interprété en la bémol majeur, qui donne une sonorité à l'orchestre un peu plus chaude. Bien qu'il s'agisse de sport, on a à la fois la gaieté et le côté jovial de musique pour le sport, mais la chaleur de l'orchestre en la bémol majeur. Et autrement, on entend bien Lili Laskin à la harpe qui fait chaque reprise. Et si je ferme les yeux, je revois mon père diriger. Thank you.
Bicycle Race par Paul Bonneau et son orchestre. Merveilleux Paul Bonneau. Vous m'expliquez Serge, en plus, c'est Roger Bourdin qui joue les deux parties de flûte, et Lili Laskin. Alors voilà, il faut qu'on fasse un spécial Paul Bonneau à la rentrée. Hein.
Absolument d'accord. Alors Benoît, est-ce que vous partez au Brésil assister aux Jeux Olympiques d'été?
Tous les ans même.
Ah bah oui. Non, parce que si vous ne partiez pas, je voulais vous faire profiter d'une musique de là-bas, de Rio, avec une belle interprétation de Masquerada, musique du Brésilien Jorge Ben, jouée ici par l'orchestre anglais de Tony Hatch, que je crois vous aimez beaucoup et qui accompagna très souvent Petula Clark.
L'orchestre de Tony Hatch dans Masquerada. Très bel enregistrement de 1967. Merci Serge Laïc.
Eh bien, merci Benoît. Voilà, bel été à toutes et à tous.
Et bonnes vacances à vous.
Et
à
vous
bientôt.
Aussi. À très bientôt.
Ainsi s'achève donc Étonnez-moi Benoît, une émission préparée par Pauline Boisaubert. Aujourd'hui à la technique, Julien Calvas, François Pron, Kevin Loira, Bernard Kazmarek, réalisation Christine Amado. Bonnes vacances à tous, on se retrouve début septembre.